Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Biotope, une émission qui sera consacrée aujourd'hui au problème de la transition énergétique. Avec moi pour parler de ce sujet, Marc Isoard, un des trois coordonnateurs de l'association DIWAS pour la transition énergétique. Claire Tincelin-Salomon, monteur d'un projet éolien dans le bas de la vallée de la Drôme. Et elle fait aussi partie de l'association Vallée de la Drôme Énergie Citoyenne avec Jean-Pierre Brun, qui aussi est consultant dans le domaine de l'énergie. Bonjour à tous et
bonjour.
À toutes.
Bonjour.
Donc, messieurs, dames, vous êtes venus ici pour parler de transition énergétique et vous avez même créé une association pour aider à cette transition énergétique. Alors, j'aimerais bien vous demander pourquoi crée-t-on une association qui s'occupe de ce type de sujet ?
Nous, on a créé cette association suite à deux actions de sortir du nucléaire. Et comme on ne voulait pas être toujours contre quelque chose, on a décidé d'être pour l'opposé à ce quelque chose, le nucléaire en question. Donc, après deux chaînes humaines, nous avons créé une association qui s'appelle donc l'association DIWAS pour la transition énergétique, ADTE pour dire plus vite. Depuis le mois d'août, elle est officiellement créée. Donc, depuis le mois d'août, ça fait très peu de temps, on n'a pas encore d'action concrète. Mais comme le gouvernement a lancé cette histoire de débat sur la transition énergétique, on est partie prenante et on a décidé de rentrer en plein dans ce débat. Et
Jean-Pierre Brun, alors pourquoi as-tu éprouvé le besoin de te lancer dans une aventure associative alors que tu es déjà consultant en matière énergétique ?
Après plusieurs années, effectivement, sur le plan professionnel, je travaille dans ce domaine-là. On se rend compte de l'ampleur de la tâche qu'il y a pour répondre aux enjeux en matière énergétique, en matière de dérèglement climatique. Après avoir travaillé sur plusieurs projets individuels ou collectifs, puis en discutant avec plusieurs personnes de mon entourage, on a tous partagé l'idée qu'il fallait maintenant œuvrer sur le plan associatif pour mobiliser au maximum les citoyens dans notre territoire pour faire en sorte de pas être en retard par rapport à tous les grands projets qui nous attendent.
Et alors pourquoi une association, c'est le bon format, la bonne structure ?
C'est pour nous, c'était la bonne structure parce que la révolution énergétique, pour répondre aux différents enjeux, elle se fera, on en est convaincu, par la mobilisation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un schéma de production centralisé, avec un mode de gouvernance qui aujourd'hui ne répond plus aux attentes du futur. Et donc, après avoir bien réfléchi à toutes ces questions, ça nous semble évident qu'aujourd'hui, il y a une réappropriation citoyenne. Et donc, à partir de là, c'est assez logique que cela se fasse par le milieu associatif. Voilà. Et donc, l'intérêt d'une association, c'est de pouvoir regrouper tout un ensemble de personnes qui partagent les mêmes idées, qui se posent un certain nombre de questions pour arriver à se mobiliser.
Alors, vous êtes les deux seules associations qui s'occupaient de ce genre de sujet dans la vallée de la Drôme, ou y en aurait-il d'autres ?
Non, il y en a d'autres. Je pense qu'il y a l'association de transition du Val-de-Drôme qui intervient dans ce domaine aussi de l'animation sur l'énergie. Il y a les Amis de la Terre, il y a... qui d'autre ?
L'association contre le gaz de schiste.
L'association contre le gaz de schiste qui commence aussi comme... comme Marc le disait, à ne plus être seulement contre, mais aussi pour des alternatives. Donc c'est un peu une transition même dans la démarche militante qui est d'être maintenant force de proposition. C'est ça qui devient intéressant sur les territoires.
Et puis sur Dix, il y a un deuxième groupe qui s'appelle Groupe Transition DIWAS, je crois.
Vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment bien servi par les hommes politiques pour éprouver le besoin de motiver les citoyens? Quelles sont les actions que vous envisagez à l'avenir en fait?
Les élus agissent à leur niveau, ils travaillent sur des projets politiques, c'est très bien parce que souvent c'est ce qui permet de donner des impulsions et puis peut-être de donner des directives politiques. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, dans ce domaine-là en particulier, c'est très important qu'il y ait une appropriation par les citoyens, quoi. Donc ce sont des actions qui doivent se trouver complémentaires.
Moi, je pense que l'action citoyenne aura beaucoup plus de portée que si elle était portée, oui, par des élus en particulier.
Alors, donc, deux associations récentes. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment vous voulez procéder pour justement en arriver à vos fins, pour aider à l'émergence d'un meilleur mix énergétique?
Alors, en ce qui concerne Vallée de la Drôme et Énergie citoyenne, nous souhaitons pouvoir contribuer à l'appropriation des enjeux par les citoyens. Donc, autrement dit, c'est faire la promotion des économies d'énergie, faire la promotion du développement des énergies renouvelables. Et dans cette approche citoyenne, c'est justement de pouvoir développer des projets que l'on qualifie de participatifs, donc qui permettent à tout un chacun dans notre territoire de pouvoir s'approprier la production d'énergie, de pouvoir ensuite l'utiliser sur le territoire et ainsi alimenter une économie locale. Aujourd'hui, on a, on va dire, une économie de l'énergie qui est complètement extérieure à la vallée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune retombée locale. Donc l'objectif, justement, dans ces démarches-là, c'est qu'on puisse maîtriser les conditions dans lesquelles on peut s'approvisionner et consommer notre énergie et en profiter sur le plan économique.
C'est à ce titre-là, moi, que je me suis investie dans cette association-là, parce que comme monteur de projet militant, s'il en est, l'objectif de ce montage de projet de Saint-Éolienne à La Roche-sur-Grane, c'était de réussir à mobiliser une ressource locale avec des compétences locales pour maximiser les retombées locales. Le fait de travailler sur un projet comme ça en association, c'est de partager avec d'autres la possibilité de faire d'un projet industriel un projet de territoire, et ensuite que, pas forcément ce type de projet-là, mais au moins cette démarche-là puisse être reproductible. Comment faire pour que des gens soient intéressés à investir un peu d'argent dans une opération de production d'énergie ou d'électricité, en sorte que ce ne soit plus des choses qui viennent de l'extérieur et repartent à l'extérieur. On a des ressources locales, il est temps de se les réapproprier, à la fois intellectuellement, mais aussi financièrement et techniquement.
Alors cette appropriation de la consommation d'énergie sur le plan individuel existe déjà dans le cadre de l'opération Famille à énergie positive qui a eu lieu l'année dernière et qui est renouvelée cette année, où il est question d'économiser son énergie sans faire de gros travaux dans sa maison, simplement par un changement de comportement. L'année dernière, donc, sur les 82 familles de la Drôme qui y ont participé, en moyenne, nous avons économisé de 150 pour les moins jusqu'à 250 pour les plus. Ceux qui ont économisé plus, c'est ceux qui avaient des maisons, évidemment, les moins isolées. Et inversement.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Alors dans cette émission concernant la transition énergétique, nous allons faire appel à Georges Roussel, qui non seulement a fait un certain nombre de travaux pour rendre sa maison efficiente énergétiquement, et aussi qui a adhéré aux familles à énergie positive. Bonjour Georges.
Oui, bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler des travaux que tu as entrepris pour rendre ta maison efficace énergétiquement?
Quand j'ai acheté ma maison en 1994, il n'y avait rien du tout, donc c'était simple, il fallait tout faire. Et j'ai installé à ce moment-là, en même temps, 15 mètres carrés de capteurs thermiques qui ont permis, disons, de faire de l'eau chaude, du chauffage de la maison. Et avec un appoint gaz propane, puisqu'on n'a pas le gaz de ville ici, dans les campagnes d'Espenel. Et on a aussi des appoints en bois. Et on a des poêles à bois, notamment un dans la cuisine et un dans une pièce à l'étage. Je chauffe ma maison au rez-de-chaussée, j'ai un chauffage par le sol, parce que j'ai pu faire des travaux dans le sol. À l'étage, il y a deux chambres et j'ai mis des radiateurs. Au niveau chauffage, voilà un peu comment on fonctionne.
Je suppose que tu as isolé parfaitement ta maison.
Non, parfaitement non. Au départ, il n'y avait rien qui était isolé. C'est une ancienne maison de pierre. Donc j'ai fait surtout un peu d'isolation au niveau des plafonds et du plancher dans le grenier, mais les murs ne sont pas isolés du tout. Si ce n'est dans une nouvelle pièce où là, on a refait un mur de briques intérieur pour isoler. Mais disons qu'une grosse partie de la maison, ce sont des murs de pierre non isolés.
Est-ce que tu peux quantifier un peu et ce que ça a coûté et ce que ça te rapporte?
Je n'ai plus les chiffres en tête pour l'installation des capteurs photovoltaïques que j'ai eu en crédit d'impôt. Mais te dire le montant maintenant, il faudrait que je recherche, et là, je ne saurais pas te dire le montant. Il faut s'adresser, quand on a des projets, soit à la DIL à Valence ou au CEDER à Nyons. Ce sont deux organismes qui donnent des renseignements sur ce qu'on peut faire dans l'isolation et avoir des niveaux de prix aujourd'hui.
Est-ce que tu es content des résultats de tes installations quand même? Est-ce que ça te paraît pertinent?
Le résultat, il est toujours... Il faut dire que j'ai une maison qui n'est pas une maison de référence. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas content parce que c'est vrai, ça consomme encore de trop. C'est une maison en pierre qui date de je ne sais pas quelle année, si c'était 18 ans ou quoi. C'est une maison qui n'est pas adaptée à aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, je suis une maison qui consomme anormalement par rapport à ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Donc, pour ça, je ne suis pas content. Mais voilà, je ne suis pas content non plus d'utiliser du propane, qui est un gaz de pétrole. Et le jour où ma chaudière, qui a déjà maintenant 17 ans, je pense la remplacer par une chaudière à bois granulé, par exemple. Voilà, on peut dire qu'aussi au niveau énergétique, il y a trois façons de travailler. La première, c'est d'apprendre à économiser l'énergie. La seconde, c'est d'avoir des équipements le plus efficaces possible. Et le troisième point, c'est éventuellement, si on a les moyens, de produire un peu d'énergie alternative, comme moi j'ai fait ici il y a 3 ans, en montant 24 mètres carrés de capteurs photovoltaïques. Mais j'essaye encore maintenant de réduire le plus possible ma consommation d'électricité, et en plus je me fournis en électricité pour ma maison à une coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Enercoop, et qui prône l'économie d'énergie et les économies alternatives.
Est-ce que tu accepterais de transmettre ton expérience et donc de donner ton numéro de téléphone ou un mail?
Oui, on peut le donner. Au contraire, je suis favorable à aider tous ceux à dire ce que moi j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. 04 75 21 75 47.
Eh bien, je te remercie beaucoup.
Voilà.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Les objectifs qu'on peut avoir sur un territoire comme celui de la Biovallée et qui rejoignent les objectifs des élus, faire de ce territoire un territoire à énergie positive, ça passe par des très grands projets, mais ça passe aussi par une appropriation et par des actions totalement individuelles. Et des actions individuelles qui, comme le disait Marc, ne passent pas forcément par de l'investissement. C'est des changements de comportement sur lesquels on peut tout à fait bien tous travailler sans que ce soit hyper contraignant. Mais en ayant une véritable action sur son propre environnement inscrit dans le collectif.
Alors il se trouve que vous avez créé deux associations pratiquement au même moment ou à quelque chose près dans le haut et dans le bas de la Vallée de la Drôme. Il serait naturel que vous travailliez ensemble. Le faites-vous?
On va essayer.
Pour l'instant, ça ne s'est pas produit, mais on a l'intention de travailler ensemble, de préparer le débat énergétique ensemble et de faire une remontée de propositions communes.
Le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, voilà, là, il y a deux associations, on en a cité d'autres. Ça, c'est révélateur quand même d'une mobilisation qu'il peut y avoir à la petite échelle locale. Et donc du nombre, on va dire, d'initiatives, de questionnements qu'il y a sur le terrain. Dès lors qu'on a connaissance, effectivement, de toutes ces initiatives et que notre objectif, c'est d'être efficace dans l'avancée que l'on peut faire sur ces questions énergétiques, bien évidemment, ensuite, on doit se coordonner, puis c'est ce que l'on fait aujourd'hui, finalement, en se retrouvant dans cette émission. Et comme donc le disait Marc, on s'est réunis dans le cadre donc des semaines de l'écologie samedi dernier, pour commencer à travailler sur la préparation du grand débat national sur la transition énergétique.
Oui, alors justement, dans le cadre de ce débat national lancé par le gouvernement sur la transition énergétique, il sera proposé à des acteurs locaux, c'est des associations, des partenaires économiques et des institutions locales, d'organiser et d'animer des ateliers débat ouverts à la population sur ce thème de la transition énergétique. Donc j'ai l'impression que ça y est, vous êtes parti dans ce projet.
Alors on bénéficie par la bande d'une toute une dynamique, comme le disait Jean-Pierre, qui est déjà initiée sur le territoire. Il y a les semaines de l'écologie, il y a... Le groupe Transition Val de Drôme qui organise le 7 février à créer des projections et un débat sur la transition énergétique. On va essayer de se coordonner pour multiplier ce type d'action au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, à la fois en tentant d'organiser des conférences, mais aussi en essayant de faire de l'animation pour qu'il y ait des propositions qui soient faites par le terrain et qu'on puisse relayer aux collectivités locales.
Est-ce que les remontées d'informations suite aux ateliers débats que vous allez organiser seront prises en compte d'une certaine façon par le gouvernement ou pas ?
C'est prévu comme ça, effectivement. Il y a toute une procédure qui a été présentée avec des conférences déjà au niveau national et régional. Et puis ensuite, la possibilité qui est laissée à un certain nombre d'acteurs de pouvoir organiser des conférences et des ateliers débats. Donc nous, c'est à ce niveau-là qu'on souhaite s'impliquer.
Vous connaissez, il y a un super proverbe, « Vox clamantis in deserto », la voix qui clame dans le désert. Vous pourriez le dire, oui, il faudrait faire ci et que... En fait, tout le monde s'en fout.
Il est prévu une démarche de labellisation qui permette de faire remonter l'issue des débats dans la mesure où on organise ces ateliers débats selon des règles qui sont bien établies et notamment qui permettent à chacun d'exprimer son opinion. Ensuite, vous savez que sur le nombre sans doute très important qu'il y aura au niveau local de ces animations, comment ce sera pris en compte au niveau national, on n'en sait trop rien, mais... Ce qui compte surtout, c'est la démarche, parce que jusqu'à présent, ce genre d'initiative et d'organisation est assez rare. Même si on n'attend pas grand-chose, finalement, de ce que nous, on fera remonter au niveau national, on va dire ces différentes réunions, ces différents ateliers que nous organiserons permettront de pouvoir développer la dynamique qui se met en place et puis à laquelle participent justement nos deux associations.
L'important, c'est de commencer à parler un peu d'énergie dans notre pays, parce que pour l'instant, on a une connaissance de ce qu'est l'énergie en France qui est complètement centralisée. C'est le nucléaire et on ne comprend rien de quoi que ce soit qui est autre qu'une centrale nucléaire ici et un bouton là pour allumer notre lumière. L'idée, c'est d'essayer de voir comment... peut-être à la fois dans les familles, mais aussi sur un territoire, comment on consomme de l'énergie, d'où ça vient, comment ça pourrait être substitué, et si on a les moyens de diminuer nos consommations, de faire augmenter la part des productions d'énergie locale, et si tout ceci pourrait tendre vers un point de convergence qui s'appelle un territoire à énergie positive, c'est-à-dire qu'on soit globalement autant producteur que ce qu'on consomme. Et ça, à mon sens, c'est un projet politique qui est très important parce qu'il va pouvoir être générateur d'activités locales, parce que tout ce qui n'est pas dépensé en gaz russe ou en pétrole saoudien, eh bien, ça pourrait être substitué par de la création d'économies locales. C'est ça l'enjeu. C'est à la fois qu'on commence à comprendre à peu près comment on fonctionne, comment on consomme, quelle est notre part de responsabilité dans cette grande gabegie énergétique et comment on peut individuellement et tous collectivement redresser un peu la barre et recentraliser et se recentrer un petit peu sur les territoires. Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme, hein, il s'agit juste de prendre ses responsabilités.
Et moi j'ajouterais cette réappropriation de l'énergie créera des emplois dans la production et surtout dans la production de cette énergie-là localement. Et le DIWA est bien concerné parce qu'au point de vue création d'emplois, on est en manque, beaucoup.
De la création d'emplois dans la production d'énergie, mais également dans les économies d'énergie. Si on pense, on va dire, à tout le gisement d'économies d'énergie qu'on a, notamment sur le chauffage de nos maisons, et pour lequel on a un chantier gigantesque en matière de rénovation énergétique. Donc c'est créer et puis maintenir tout un ensemble d'emplois très importants pour notre vallée.
Tout à l'heure, tu as parlé de centralisme. Le problème ne serait-il pas là ? Cette habitude de fonctionner avec des grosses usines à gaz loin de chez nous, l'objectif, ce serait de faire en sorte que même peut-être, idéalement, notre vallée de la Drôme soit énergétiquement autosuffisante ?
Ben, dès lors qu'en fait, on admet le fait que notre système, on va dire, d'approvisionnement, de fonctionnement énergétique est basé sur des sources, on va dire, qui sont des sources du passé. Ce sont essentiellement des sources d'origine fossile, hein, du pétrole, du gaz.
De l'uranium.
Puis ce sont ensuite des sources d'origine fissile, c'est l'uranium. Pour des raisons, on va dire, un petit peu différentes, mais qui reviennent, on va dire, à la même conclusion. On travaille sur la transition énergétique, donc en comprenant déjà qu'on doit être beaucoup plus efficient dans l'utilisation, donc c'est faire des économies pour satisfaire un usage, c'est consommer moins d'énergie. Et puis ensuite, c'est satisfaire nos besoins par des énergies renouvelables. Et ce qui fait la différence entre une énergie fossile ou fissile et des énergies renouvelables, c'est qu'on a l'obligation d'aborder le sujet sur un plan local. Parce que les énergies renouvelables sont de différentes natures. C'est le rayonnement solaire directement, c'est le vent avec l'éolien, c'est l'énergie hydraulique, c'est la biomasse. Et on ne peut pas le considérer autrement que dans une gestion cohérente à l'échelle locale, à l'échelle du territoire.
C'est pour et ça avec que des on complémentarités. Doit le voir
autrement que dans une approche centralisée. Et bonne nouvelle dans tout ça, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que cette approche, on va dire décentralisée locale, est génératrice d'emploi et donc d'économie locale.
En France, on a une nette propension à préférer des usines à gaz complexes qui nécessitent une flopée d'ingénieurs plutôt que de rendre autonomes les citoyens avec une petite éolienne ou une petite...
Mais la question n'est pas vouloir s'opposer à des usines à gaz parce qu'on peut avoir des installations d'énergie renouvelable locale qui soient d'importance, mais c'est d'avoir une cohérence, on va dire, territoriale entre d'un côté la production et puis la consommation pour être efficace et tenir compte des particularités des énergies renouvelables.
C'est vrai qu'on a toujours en tête quelque chose qui oppose la centrale nucléaire avec le capteur solaire sur son toit pour sa propre consommation. Il y a des demi-mesures et ces demi-mesures sont les productions décentralisées d'électricité. 5 éoliennes sur un territoire, c'est pas une usine à gaz. C'est la centrale à bois de Pierrelatte qui commence à être une usine à gaz parce que c'est 95 mégawatts thermiques. Ça, c'est énorme. Mais si on répartit sur le territoire à la fois des sources de production de combustible et des sources de production de chaleur ou d'électricité, on n'est plus dans une usine à gaz, même si, comme je le disais tout à l'heure, on a tellement peu d'images autres que celles de la centrale nucléaire, même si on peut avoir l'impression que c'est des petites usines à gaz, il n'en demeure pas moins que c'est des productions décentralisées à l'échelle d'un territoire. Et ça, il faut qu'on, tout tranquillement, on se réapproprie toutes ces petites images-là pour commencer et finir peut-être par les rendre vivantes sur le territoire.
Et moi, j'ajouterais les déperditions pendant les transports. Ça évite donc produire et consommer localement. Ça évite toutes ces déperditions d'énergie de toutes sortes.
Pour en venir à vos associations, et comment vont-elles faire avancer ce noble combat de passer d'un modèle de consommation énergétique qui n'est pas très bon à un meilleur ? Est-ce que vous pensez que ce débat national lancé par le gouvernement sur la transition énergétique va vous permettre de créer cette émulsion sur ce territoire ?
C'est effectivement l'espoir qu'on a. En fait, on va sans doute se mettre entre guillemets le pied à l'étrier en participant à ce débat national. L'idée, c'est de ne pas en rester là ensuite. C'est de continuer à intervenir auprès de tout public, peut-être en organisant des réunions dans les quartiers, en essayant de voir si dans une commune ou sur un territoire, on peut réfléchir, comme ça s'est fait autour de Plan B, à créer des centrales villageoises. Ça peut être continuer à intervenir dans les familles pour introduire justement aux opérations familles à énergie positive. Toutes ces animations-là, je pense que le cœur de notre intervention, ce sera de l'animation auprès d'un plus large public possible, en utilisant le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont développé des compétences dans la maîtrise qu'elles ont des sujets sur l'énergie et qui sont suffisamment militantes pour donner du temps à l'expression de cette problématique énergétique sur un territoire.
Il faudra du temps et c'est une occasion unique, moi je dirais, ce débat énergétique, parce que pour une fois qu'on donne la parole aux citoyens, il faut la saisir et la faire partager à un maximum de personnes pour que chacun puisse s'exprimer et faire remonter toutes les propositions qui sortiront de ces débats au plus haut niveau.
Oui, moi je rajouterais que effectivement, c'est une très belle occasion. C'est un débat national. C'est un débat national qui est engagé par le gouvernement, qui montre justement l'importance qu'au niveau politique on veut donner. Ça donne un certain sens à cette notion de transition énergétique. Alors, ça signifie pas forcément beaucoup de choses pour tout le monde. À partir de là, c'est à nous justement à jouer notre rôle sur le plan associatif, d'apporter un certain nombre d'informations, d'inviter finalement à chaque citoyen de s'intéresser au sujet, de participer au débat, et puis à partir de là, nous on reste convaincus qu'on va pouvoir travailler sur des projets au niveau du territoire, en travaillant sur des projets participatifs, en arrivant à se motiver sur un certain nombre d'actions que l'on peut engager dans le domaine des économies d'énergie aussi, quoi.
Donc on attend instamment, sous peu, un certain nombre de propositions émanant de vos deux associations.
Tout à fait, oui.
Donc on va rappeler les coordonnées afin que si d'aventure des gens souhaitent vous contacter et même aller dans votre sens, peut-être. Par exemple, l'ADTE.
Alors, ADTE, alors le téléphone c'est 04 75 21 19 10. Le mail c'est transition.energetique.diwa@orange.fr.
Et pour la deuxième association, Vallée de la Drôme Énergie Citoyenne ?
Alors, on peut donner une adresse e-mail, donc c'est contact@vd-ec.org.
Très bien. Je pense que le jour où vous lancerez l'opération, ce serait intéressant de revenir nous voir quand vous aurez du concret, quand vous aurez des dates et des lieux.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous allez faire partie des rencontres de l'écologie au quotidien ?
Tout à fait, nous sommes... Bon. Très engagé dans les semaines de l'écologie. ADTE aura un stand pendant toute la semaine de l'écologie et participera à toutes les soirées concernant l'écologie.
Et nous, on réintervient le 28 au soir dans le cadre d'une soirée pas de terre sans paysans où on travaillera et on parlera du scénario Négawatt.
Eh ben, en attendant les premiers résultats de votre action sur le terrain, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé à cette petite émission.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Top. Un programme soutenu par BioValley.
Merci, au revoir.